Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas. Je passe tes passifs. Je t'embrasse un instant furtif. L'ombre de ton nom brille dans la chambre. Toute celle que je te chante. Tu dors quand je parle et tu sors quand je bavarde. Je suis seule, on part et je me pose et je chiale. Et nos corps qui s'éteignent. Moi je mords quand je t'aime. Je meurs mais je t'aime. Je quitte. Et je ne te quitte pas. Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas. Je quitte. Mais je ne te quitte pas. Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas.
Take you home, about to be a long night, gonna be here till the morning. Yeah, shit. Girl, you know we in tune, let a private life. zoom. Damn, it's packed in here. I need elbow room.
Tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et de culture du vendredi, l'émission Café. C'est Alex qui vous parle en direct des studios de CKUT avec Charlotte. Allô Charlotte!
Salut Alex!
Comment ça va en ce drôle de bizarre de vendredi?
Ça va un peu humide, mais je suis contente d'être là avec toi.
Oui, c'est ça qui arrive, hein? En début d'émission, on a écouté la pièce de Kate Renada, artiste d'origine haïtienne qui habitait à Montréal. Je ne sais pas s'il habite encore à Montréal. Il a gagné... Ah, Charlotte me regarde avec des yeux.
Je pense qu'il a établi des quartiers aux États-Unis, mais qui est encore à l'occasion souvent à Montréal.
C'est ça qui se passe, hein, avec le prix Polaris qu'il a gagné il y a 2 ans. D'ailleurs, c'était une collaboration avec Chanel Tressé, donc Chanel Tress, pardon. Alors, très belle pièce et douce. J'avais besoin de me faire du bien avec ce drop de température complètement soudain. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Alors, il est 18h07 et aujourd'hui, on a deux entrevues pour vous en art vivant et visuel. Moi, je vais vous parler de la surprenante pièce « Everyday She Rose » que j'ai été voir la semaine dernière. Donc, pièce qui clôture la saison théâtrale du Black Theater Workshop. Pour l'occasion, j'ai rencontré la directrice du marketing, Lauriane, qui nous parle de la mission de la compagnie théâtrale, du théâtre Black Theater Workshop et de la pièce. Je vais vous la présenter après avoir présenté l'entrevue que Charlotte a fait avec... Ben, veux-tu nous présenter toi-même ton entrevue? Mais je peux te la présenter, c'est comme tu préfères.
Non, je peux la présenter, j'y vais.
Yes!
Alors, je me suis entretenue avec l'artiste, sculpteur et multidisciplinaire Anse Galipeau-Théberge et on a parlé, entre autres, de sa pratique artistique, des médiums et de la manière dont il les utilise, surtout dans le cadre de son exposition qui a lieu présentement à la Galerie Gamedaf au 3425 Sainte-Catherine-Est. C'est une exposition qui se passe dans la galerie, au devant de la galerie. Fait que vous pouvez juste passer dans la rue puis l'observer.
C'est ça qui se passe.
Ouais.
Très nice. C'est tellement une bonne idée. Alors, on va écouter ça puis on en reparle après. Bonne écoute tout le monde.
Le bois, mais en mettant aussi l'axe sur l'utilisation de plusieurs médiums différents. Salut Anse.
Allô, merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir. Écoute, on est présentement, l'entrevue se déroule dans ton milieu de travail, à ta galerie, entre autres.
Oui, mais en fait, c'est maintenant un atelier d'artiste. On est à Gamedaf sur Sainte-Catherine. Donc, auparavant, il y avait un espace de diffusion, mais maintenant, c'est devenu 100% des ateliers d'artistes à l'intérieur. Et puis, tous nos côtés de diffusion, ça se passe dans la vitrine.
Oui, c'est ça. Puis là, en fait, pour le mois d'avril, c'est ton exposition qui s'y trouve dans la vitrine de Gamedaf. Fait que c'est à la fois l'endroit où tu peux travailler tes pièces, entre autres. Je sais que tu as d'autres lieux de production, mais c'est là aussi que tu exposes cette fois-ci pour le mois d'avril.
Oui, ben dans le fond, on profite de la vitrine pour montrer le processus ou faire des espèces de mini-expos qui vont pouvoir exister autant comme de tester des affaires ou de faire des expos qui sont plus complètes. Mais c'est aussi le mix de passer de l'atelier puis de juste transférer dans la vitrine pour un peu donner un aperçu aux visiteurs ou aux passants en fait de la rue de ce qui se passe caché derrière dans le building.
Vraiment le fun. Puis en plus, on dirait que ça fait un lien particulier avec la manière dont tu traites les sculptures que tu fais, avec un côté très... la matérialité de tes objets sont en contradiction des fois avec leur utilité première.
Bien, en fait, ça, c'est un de mes grands questionnements de vie. Dans mon travail d'artiste, je travaille beaucoup sur le lien entre la fonction de l'objet, le statut qu'on donne à un objet, comme sa valeur aussi à nos yeux. Fait que, mettons, comment est-ce que... Ben là, dans cette expo-là, je travaillais beaucoup l'idée de la passation d'un objet à un statut sacré ou une espèce de valeur ajoutée. Puis en même temps, comment ça peut quelquefois s'opposer à sa fonction.
Oui, absolument. Puis mettons, pour les auditeuristes qui n'ont pas encore vu l'exposition, on est comme... En fait, ça te tente-tu de me décrire un peu la thématique globale de l'exposition ou comme ce qu'on peut y retrouver un peu visuellement?
Mais dans le fond, mon point de départ, c'était encore une fois l'objet, sa fonction, puis la valeur qu'on accorde aux objets. Puis c'est en visitant le Musée des Beaux-Arts de Montréal, les sections plus historiques, que je me questionnais sur l'objet dans le musée, l'objet qu'on expose, comment on l'enlève, comment on le dépouille de sa fonction. Par exemple, tu sais, on prend un objet historique, supposons un peigne. On prend le peigne, on découvre le peigne dans un lieu archéologique. Puis après ça, on va exposer. Donc le peigne ne sert plus à peigner des cheveux. Mais là, on vient le mettre en relief en utilisant des socles, des cloches en plexiglas, de l'éclairage. Puis le visiteur va seulement regarder un objet, mais c'est un objet qui est entouré d'un gigantesque dispositif pour signifier sa valeur. Fait que je suis parti de ça. Puis là, dans le fond, je suis parti de ça pour aller vers questionner, entre autres, l'héritage. L'héritage des objets, l'héritage québécois, puis les lieux de diffusion. Après ça, j'ai divagué un peu au travers. Donc, ce qu'on retrouve, il y a comme certains objets qui vont plus faire référence au musée. Il y a des objets qui vont plus ressembler à quelque chose de gothique, qui vont faire référence au vitrail. Puis j'ai quand même incorporé beaucoup de références à l'architecture. Des références à la voûte, au vitrail, l'architecture gothique. Donc, c'est comme une espèce d'amalgame. Puis j'ai incorporé aussi beaucoup de lumière, tu sais, d'ampoules dans les œuvres pour vraiment, justement, attirer le regard ou mettre en scène le tout.
Parce qu'il y a vraiment un côté très église, très catho, là, qu'on peut remarquer quand même. Comment la lumière est diffusée, même si tu n'utilises pas des matériaux qui sont tous classiques à la formation des églises. L'espèce de... Tu utilises un voile, une toile plastifiée pour à travers laquelle la lumière se diffuse, puis ça fait un effet de vitrail, mais en même temps, c'est complètement pas un matériel pour du vitrail, là. C'est un matériel comme de construction que tu as mélangé au bois qui est sculpté pour faire les voûtes puis les vitraux, là.
Mais en fait, c'est comme c'est l'espèce de jeu. Je m'inspire, entre autres, justement, des références catholiques parce que ben, c'est notre héritage ici. C'est avec ça qu'on joue. Puis c'est un héritage que je connais, qui m'appartient aussi en tant que Québécois blanc de souche. Donc, d'aller puiser là-dedans, c'est une manière de juste revisiter ce que je connais. Puis après ça, pour l'amener dans le monde contemporain, c'est que je refuse d'aller chercher des matériaux de grande valeur pour parler de cette valeur-là. Donc, c'est le jeu de renversement, d'utiliser des matériaux de construction. Fait que justement, j'utilise du plastique qu'on utilise beaucoup en construction, en rénovation. La plupart du bois, ça va être du 2x4, d'épinette classique de fabrication de maison. Puis c'est une espèce de référence aussi entre le travail dans les églises, la mise en scène dans les églises qui était faite par des artisans, des équipes d'artisans immenses qui étaient là pour réussir à mettre ça en place. Plus soudainement, il y a moi tout seul dans mon sous-sol qui vient travailler le même principe. Fait que je viens jouer justement, tu sais, avec les possibilités, avec la réflexion de la fabrication, de la main de l'artisan ou la main de l'artiste, puis de qu'on puisse regarder une église, puis pas juste voir une église, pas juste voir le symbole religieux, mais aussi voir tout le travail humain qu'il y a derrière pour réussir à fabriquer ces gigantesques choses-là.
Oui, parce que ça fait partie de ton travail, je pense, depuis un bout, d'avoir une réflexion sur le point de vue d'artiste et le point de vue de fabricant, de menuisier ou de travailleur, en fait, puis que le travailleur, souvent, peut accomplir, en fait, tout le travail que l'artiste a imaginé. Puis là, toi, tu renverses un peu la donne.
Oui, j'ai fait aussi un expo là-dessus de... Justement, comment le travail manuel, quelquefois, est vu de haut, puis on considère pas que c'est un travail d'artiste, puis on imagine le travail de l'artiste beaucoup dans l'idée. Puis des fois, on imagine, tu sais, on voit des gigantesques pièces, puis on imagine que c'est un seul artiste qui le fait, alors que l'artiste va engager pour réussir à faire ces pièces-là. Mm-hmm. Donc, il y a toujours des artisans, puis moi, je refuse de sous-traiter. Je refuse que d'autres gens viennent travailler sur mes pièces. Je veux les faire au complet par moi-même pour montrer aussi les limites de l'humain, t'sais, les limites de la capacité à fabriquer quelque chose si on n'a pas une équipe. Puis j'ai travaillé comme technicien pour d'autres artistes. J'ai fabriqué justement d'autres pièces avec des équipes. Puis c'est de voir ça puis de le mettre un peu en lumière aussi.
Ouais. Absolument, puis je trouve que ça résonne vraiment beaucoup avec ton expo présentement, qui est comme, on sent que le processus pour arriver à la finalité, tu sais, tu t'es pas facilité la vie non plus en prenant des matériaux de construction pour faire des arches de vitraux ou d'église, tu sais, il y a comme vraiment, on sent que le travail artistique débute vraiment avant l'exposition dans la vitrine, tu sais, le processus. Non seulement l'idéation, mais le processus pour arriver à tes fins. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça dans ta démarche. C'est pas...
Je travaille... je connais des artistes qui vont avoir une idée globale puis qui vont réussir à naviguer directement dans cette direction-là. Moi, je travaille plus à tâtons, par expérimentation, petit à petit. Puis le fait que, justement, je sois seul pour travailler, je respecte mon rythme. Donc, des fois, je fais juste changer l'idée ou je jette une pièce au complet parce que finalement, ça va pas dans la direction que je voulais. Ou il y a des pièces que là, j'ai présentées, mais que ça fait des mois et des mois que je travaille dessus parce que je voyais pas la finalité ou je voyais pas exactement où je m'en allais avec ça, mais j'avais des intuitions puis je voulais les respecter. Donc, c'est un travail très, très lent.
Ouais, puis il y a un côté, c'est ça, dans le temps, de respecter ton rythme. Puis en tout cas, je veux dire, c'est une autre belle ambiguïté avec le côté très productif de l'artiste, comme il faut produire, puis il faut être vu, puis il faut être exposé. J'ai l'impression que toi, t'es un peu en marge de ça avec suivre ton rythme, puis mettre de l'avant ce que ça fait venir à toi, les mouvements que tu fais, puis les choix que tu fais.
Oui, puis je pense que je travaille beaucoup dans le monde des idées. Mon processus mental avance en même temps que mes pièces. Donc, quelquefois, j'ai comme des blocages où j'ai besoin de faire plus de recherches. Fait que je prends des pauses. Mais je prends des pauses dans les pièces que je suis en train de fabriquer pour après ça, refouiller, aller relire des textes sur l'architecture gothique, sur le Moyen-Âge, pour juste aller replonger là-dedans, re-réfléchir, pour après ça revenir plus fort dans mon travail. Mm. Puis c'est une liberté que je me donne dans la vie. Je gagne pas ma vie à seulement faire de la sculpture, donc c'est cette liberté-là de pas avoir d'échéancier de production pour pouvoir y aller tranquillement, suivre mon rythme.
Ouais.
Puis ça me prend... moi, je vois ça comme des cycles. Le temps de travailler un cycle, puis le moment donné, il y a une expo, puis je veux généralement clôturer des cycles dans des expos. Mais terminer un cycle, des fois, ça me prend 3 ans.
Mm-hmm. Ça dépend c'est quoi la thématique aussi, là. Je veux dire, tu parlais de l'expo en haut, qu'il y avait beaucoup de... au vernissage, je pense, tu disais... Il y avait beaucoup de contenu très personnel aussi à cette expo-là, avec comme le contexte religieux que t'es peut-être plus proche un peu que d'autres à avoir vécu ça, là, mettons, des moments, des matins à l'église. Fait comme, j'imagine aussi que tout dépendant, c'est quoi ta thématique? Il y a des affaires qui doivent prendre plus de temps ou moins de temps, qui demandent plus de réflexion ou que tu dois mettre de côté, puis d'autres où ça doit rouler plus vite.
Oui, ben tu sais, il y a un côté introspection là-dedans aussi, puis j'essaie tout le temps de partir de quelque chose de senti. Mm. Je veux pas nécessairement parler de grandes vérités de la vie. Je commence à partir de moi. Fait que dans le fond, il y a un travail d'introspection, puis il y a tout le temps comme une part de moi dans ce que je vais faire. Fait qu'effectivement, tu sais, le côté religieux, j'ai une mère qui est pratiquante catholique, mm. puis j'ai toujours été en contact avec ça. Ça m'a forgé comme être humain. Est-ce que après ça, c'est quelque chose que je voulais garder dans ma vie? Pas nécessairement, mais j'ai pas le choix de le re-regarder puis de voir comment ça peut m'affecter, comment ça peut affecter une société. Mm. Tu sais, ça reste après une espèce d'enjeu de société. Tu sais, quand on parle de laïcité, on est-tu pour, on est-tu contre, jusqu'où? Mais après ça, je veux pas parler de cet enjeu de société-là. Si je veux parler de mon enjeu à moi, puis après ça, il peut avoir des échos chez d'autres personnes, tu sais, ils vont voir ça, puis ils vont eux aussi avoir leur réflexion. Mais je veux pas donner une réponse, je veux pas donner un chemin de pensée, je veux ouvrir des portes, puis après ça, les laisser ouvertes, puis les gens vont gérer ça chacun à leur manière.
Oui, puis j'ai l'impression, comment tu as travaillé les pièces, c'est pas non plus... une réplique 100% identique à des objets qu'on peut trouver dans une église. Au contraire, tu joues avec la matérialité de ces objets-là qui sont comme plus mythiques, puis tu les... En fait, tu leur donnes une forme que toi, t'as imaginée, puis je pense à la statue en bois un peu brûlée de comme la dame qui coule. C'est comme, faudrait que les auditoristes puissent voir, mais c'est comme une statue, mais qui est complètement dans un angle penché, comme si elle avait fondu, comme si c'était en cire, ou je sais pas, ou en plastique, puis que ça s'était déformé avec la chaleur, mais en fait, c'est fait en bois. Fait qu'il y a comme ce côté-là aussi de jouer avec la perception de, mais c'est impossible que cet objet-là, que cette sculpture-là, n'ait pas été imaginée comme ça. Elle a été imaginée pour être courbe, pour être dans une forme qui n'est pas un repère pour nous, parce que ça n'existe pas, un objet qui a de l'air mythique, mais qui est dans une forme vraiment déformée, en fait.
Oui, puis c'est un jeu aussi, justement, de faire écho au travail de l'artisan. On en voit tellement, justement, là, t'sais, des statues de la Vierge Marie, des statues plus grecques antiques. Puis tout ce statuaire-là, on le remet jamais en question ou on oublie quelquefois que c'est des gens qui le font. Puis d'aller justement rechercher le même fini que quelque chose qu'on pourrait croiser dans un marché aux puces ou dans une église, mm. de venir le déformer, c'est obliger le spectateur à le regarder puis à questionner cette réalité-là.
Vraiment. Moi, ça m'a vraiment... Là, j'ai commencé à me dire, OK, mais là, comment t'as fait pour imaginer? On dirait que des statues, des fois, il y a tellement une manière classique de les produire dans ce qu'on retrouve, mettons, justement, en icône dans nos églises, que là, de la déformer complètement, il y a comme toute une réflexion qui arrive sur, OK, mais la personne a réfléchi à ça avant de le faire, vraiment, beaucoup. Et je pense que ça peut ouvrir les yeux à des gens qui sont peut-être moins sensibles à ça.
En fait, c'est qu'il y a des codes visuels. Quand on voit quelque chose qu'on l'a vu 4000 fois avant, on le voit plus vraiment, on le regarde plus. C'est comme ça fait partie d'une espèce de bagage mental. Puis là, on peut le voir, puis on fait « Ah, ça, c'est ça », puis on passe à d'autres choses. Puis là, de justement briser ces codes-là, forcer les gens à voir quelque chose qui n'est pas dans les codes, ça va, je trouve que ça oblige le regard à s'attarder davantage sur l'objet. Puis après ça, à ramener ce questionnement-là sur tous les autres objets de la même catégorie.
Ouais, vraiment. Ça fait comme un petit cercle continu de questionnement par rapport à ce qui est contemporain et ce qui est ancien. Hey, Annecy, je te remercie pour ton temps. On arrive à la fin de notre temps pour cet entretien. Est-ce qu'on a des détails pour ton exposition? C'est dans la vitrine de chez Gamedaf, qui est sur Sainte-Catherine, au coin Davidson, genre?
Oui, c'est coin Sainte-Catherine-Davidson.
Parfait, on va donner les détails de l'adresse par la suite. Puis c'est présent pendant tout le mois d'avril.
Pendant tout le mois d'avril.
Est-ce que l'expo avait un titre?
En fait, j'ai pas indiqué de titre, mais pendant le vernissage, il y avait des gens qui me posaient la question. Puis le titre, je pense, interne que j'avais, c'était « Un hôtel pour mes dents de sagesse ».
Oh wow, c'est ça, c'est parfait, excellent.
Voilà, merci.
Bonne chance pour la suite.
Merci. Station is on fire.
De retour à Café sur les ondes de CKUT, on vient d'entendre l'entrevue que Charlotte a faite avec. Rappelle-nous son nom.
Oui, c'était avec l'artiste sculpteur Annecy Galipeau-Théberge. Puis j'ai juste rappelé l'adresse de la galerie où il expose en ce mois d'avril. C'est la galerie Gamedaf qui se situe au 3425 Sainte-Catherine-Est à Montréal.
Très cool galerie d'ailleurs, les gens. Allez y faire un tour. C'est vraiment une belle gang.
Oui.
Merci pour cette entrevue, Charlotte. Maintenant, on va aller écouter l'entrevue. C'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est comme une émission casse-tête un peu où on présente des entrevues pré-enregistrées. Donc, moi, comme je disais un peu en introduction, j'ai parlé avec la directrice marketing de la compagnie de théâtre Black Theatre Workshop. De la pièce qui est présentée en ce moment même, Every Day She Rose. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai parlé de cette pièce-là avec elle et j'en ai profité pour lui demander des questions sur cette compagnie de théâtre que ça fait longtemps qui m'intrigue. C'était la première fois que j'allais voir une de leurs pièces, d'ailleurs. Je vais avoir la chance d'en parler un peu après que vous ayez écouté cette entrevue, parce qu'on parle plutôt de la compagnie de théâtre que de la pièce. Donc, j'en parle après. Et elle est présentée encore là, cette fin de semaine. Mais donc, je vous la présente tout de suite, cette entrevue, et on en reparle. Et je remets la pub que j'ai coupée malencontreusement juste maintenant. Là. Alors, on revient sur les ondes dans 10 minutes. Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT. D'ailleurs, il est 18h29. Bonne écoute. This radio station is on fire.
Colt MTL's Best of MTL 2024 Readers Poll is now open for voting. This is their 12th annual poll. Best of MTL is a forum to reward your favorite local people, places, media, art, food, events, and services. Vote for CKUT 90.3 FM as the best radio station in the city. Polls are open now until this Sunday at 11:59 p.m. on the dot. That's April 14th, 2024, so get voting right now. You can go vote at coltmtl.com.
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle et vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3 et je suis en différé en compagnie de Lauriane Jean-Baptiste, directrice marketing du Black Theatre Workshop. Donc bonsoir Lauriane.
Bonsoir Alex, merci beaucoup de me recevoir.
Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, un peu comme je disais à l'émission, j'expliquais la pièce que je suis allée voir la semaine dernière, Every Day She Rose. Et puis donc, avec toi, on va parler un peu de la pièce, oui, mais peut-être avant de plonger un peu dans la pièce, j'aurais envie, moi, ça fait longtemps que j'entends parler du Black Theatre Workshop et... tant qu'à avoir la directrice marketing, j'aurais envie de te poser des questions sur votre formidable organisation. Ça sort d'où? Depuis combien de temps? Vos buts? Je te laisse. C'est une grande question large. Au pire, je viendrai te diriger dans ton réponse.
OK. En fait, le Black Theatre Workshop existe depuis les années 70. C'est parti en tant que petit groupe communautaire. C'est des acteurs, en fait, qui voulaient voir plus de gens qui leur ressemblaient sur scène. Donc, ils ont parti le Black Theatre Workshop et ça a grandi, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, nous, de notre côté, notre mission, c'est vraiment de mettre de l'avant des artistes qui sont issus de la diaspora, des artistes noirs, mais on travaille avec beaucoup de gens différents, dépendamment du projet. On a aussi notre programme de mentorat artistique. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces portes-là ici chez Black Theatre Workshop. Donc, c'est très varié comme offre. Notre principale mission, c'est vraiment de faire du théâtre, de mettre des artistes noirs, oui, sur scène, mais aussi en arrière-scène. Donc, tout ce qui est designer, on veut de plus en plus les mettre de l'avant et puis travailler avec ces gens dans l'industrie.
Wow! Puis, vous produisez combien de pièces par année environ? Combien de personnes vous embauchez? C'est à quel calibre?
Bien, on fait, je vous dirais, 2 à 3 pièces par année. Donc, cette année, on en a 2. L'année prochaine, on va avoir notre launch qui va sortir bientôt. Donc, l'année prochaine, on va en avoir 3. Et puis, je vous dirais que ça peut dépendre d'une année à une autre. Ça peut être environ de 50 à 75 artistes. Puis aussi, par le programme de mentorat artistique en tout, pendant plusieurs années, nous, on a... eu au moins 100 à 150 personnes qui sont passées par nos portes. Donc, ça peut prendre de grosses envergures dépendamment du projet sur lequel on travaille.
Puis toi, ça fait combien de temps que tu y travailles? Et comment tu es attiré par le BTW?
Moi, ça fait 3 ans que je travaille chez BTW. J'ai commencé en 2021, donc c'était justement pendant une période de transition quand même assez importante parce que c'était pendant la pandémie. Donc, on avait moins de production à monter. On essayait de voir si on pouvait faire des offres plus digitales, disons. Même notre gala Vision qui a 38 ans cette année. Ça va être la première année qu'on revient en personne. Avec ça, on a fait des galas, mais digital, donc sur Internet. Donc, on avait des projets divers, mais après ça, on a fait notre première pièce en revenant de la COVID. C'était Pipeline et c'était vraiment une pièce exceptionnelle. Pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai entendu parler de ça, Black Theatre Workshop? En fait, je connaissais le compositeur de Every Day She Rose, Rob Denton, par le passé dans d'autres projets. Puis, il m'a engagé, moi et quelqu'un d'autre, afin qu'on soit les collaborateurs musicaux sur une production qui a été faite par BTW en 2017. Et c'était la première fois que j'entendais parler de cette compagnie-là. Et lui, c'est un compositeur qui veut vraiment travailler avec des gens, des artistes émergents, puis leur offrir des opportunités. Et il a fait d'ailleurs la même chose sur ce spectacle-là, sur Everyday She Rose, avec Alex Cameron et Riel Reddick Stevens. Donc, moi, j'ai entendu parler de ça parce que j'ai travaillé sur un show en 2017. Et puis, lorsque j'ai vu, j'ai continué à suivre les activités de Black Theatre Workshop. Lorsque j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un en marketing, j'ai.
Pardon, c'est mon ordinateur qui j'ai oublié de fermer mes notifications, mais oui.
Non, il n'y a pas de problème.
Pardon.
Non, c'est correct. Non, donc, je disais que. En 2017, quand j'ai travaillé sur ce show-là, j'ai pu connaître la compagnie, continuer à suivre les activités de la compagnie. Puis ensuite, j'ai appliqué lorsque j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un en marketing.
OK, wow! Et donc, tu fais de la musique?
Ben, en fait, je chante, mais plutôt à mes heures, avec un groupe communautaire. C'est du théâtre musical du Broadway. Donc, Rob avait travaillé sur certains de nos concerts. Je l'ai connu comme ça. Puis, il a pensé à moi pour aider, venir ajouter des voix dans ce qu'il composait pour le spectacle s'appelait The Mountaintop à l'époque. Donc.
Un autre beau titre, j'aime beaucoup les titres que Everyday She Rose, d'ailleurs, parlant de la pièce que je trouve tellement un beau titre. Est-ce que j'ai envie que tu nous l'introduises un peu du point de vue marketing, là?
Oui, bien, un pitch. Ben, en fait, la pièce. Ça explore une amitié. Donc, l'amitié entre Cathy Ann et Marc. Cathy Ann, c'est une femme noire hétérosexuelle et Marc, c'est un homme blanc homosexuel et ils sont colocataires. Donc, quand la pièce commence, l'atmosphère est vraiment détendue. On est dans leur appartement. Ils se préparent pour aller à au défilé de la fierté. Pride à Toronto et c'est haut en couleur, c'est le fun, c'est un groupe d'amis qui donne envie d'être amis avec eux. D'après ce que les interprètes Emma Jade Sims et François McDonald nous présentent. Et puis quand ils reviennent du défilé, en fait, ben leur amitié semble avoir changé parce que le défilé a été interrompu en fait par l'organisation, une manifestation de l'organisation Black Lives Matter. Puis eux, ils se sont sentis vraiment différents envers cet événement-là. Donc, Mark, lui, il sent comme si l'organisation n'aurait pas dû interrompre son défilé, le défilé de sa communauté. Puis Cathy Ann, elle sent que oui, ce qu'il revendique, c'est le droit chemin, puis c'est ce qu'il fallait, en fait. Donc, ils se sentent inconfortables dans l'appartement qui leur appartenait, mais dans une amitié qui est soudainement fracturée, brisée. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les dramaturges, ils partage un peu l'identité de ces deux personnages-là. Donc, on a aussi l'opportunité de voir le travail de ces deux-là en train d'écrire la pièce. Donc, c'est comme une pièce dans une pièce. Mais je vais laisser le public découvrir la chose.
Oui, parce que là, au moment où l'entrevue sera diffusée, il va rester deux représentations. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, ça va être sold out, mais si jamais ce ne l'est pas, on conseille à tout le monde d'aller voir la pièce parce que moi, je l'ai vue hier soir et j'ai vraiment adoré. Après cette entrevue, je vais prendre un petit moment à la radio pour en faire une critique. Mais un grand merci, Lauriane, d'être venue nous parler de votre magnifique compagnie de théâtre. Moi, c'est la première pièce que je vois du théâtre BTW et pas la dernière. Puis, merci de nous avoir introduit à cette pièce, donc, qui est jouée jusqu'au 14. Peux-tu nous rappeler le nom du théâtre?
Oui, c'est le théâtre Espace Libre du 4 au 13 avril.
13 avril. Un grand merci.
Merci beaucoup.
L'électronique expérimentale rencontre une rêve indie pop rock moderne des années 80. Adam Ma crée une musique évocatrice. Son nouvel album, Year of the Dog, explore des thèmes tels que les relations à long terme, l'attrait de la nostalgie et l'état actuel de l'industrie musicale. Avec des apparitions de Jordan Lawler, Royal et Ricky, écoutez le nouveau album d'Adam Ma, Year of the Dog, sur votre plateforme de streaming préférée dès aujourd'hui.
Toujours sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et de culture du vendredi. C'est Alex et Charlotte en direct des studios. Il est 18h40. On vient tout juste d'entendre une entrevue que j'ai préenregistrée la semaine dernière, donc avec la directrice marketing du Black Theater Workshop. On a parlé de la compagnie de théâtre que j'ai vraiment été heureuse, en fait, d'enfin d'en savoir plus sur cette compagnie. C'est certainement pas la dernière pièce que je vais voir d'eux. Je vous conseille fortement d'aller les suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment intéressant le travail qu'elles font. Concernant Everyday She Rose, donc qu'on parlait, ça fait déjà une semaine que je l'ai vue, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu de mon appréciation de la pièce. Donc, un peu comme... Comme Lauriane nous expliquait, la pièce se passe un peu en deux temps. Dans un premier lieu, donc il y a les deux personnages. Donc je vous lis le synopsis. Je pense que ça va nous mettre un peu en appétit. Après la manifestation de Black Lives Matter lors du défilé de la fierté de Toronto en 2016, deux amis découvrent que leurs politiques raciales et queer ne sont pas aussi alignées qu'ils le pensaient. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, ce sont les dramaturges qui sont derrière leur histoire, qui se mettent en scène un peu à travers les personnages. Donc, on a comme une pièce en deux temps qui est vraiment intéressante et habilement montée parce qu'on a cette première histoire où... Et là, Charlotte, tu me diras si je suis claire dans mes explications.
D'accord.
Donc, on a cette première histoire qui raconte les deux amis, leur conflit à travers la découverte de leur politique, de leur vision politique et des limites et qui se confrontent ensemble. Et à travers la construction de ce conflit-là, les auteuristes qui se reconnaissent beaucoup dans les personnages se confrontent également. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant en ce sens que ce sont des questions politiques qui sont assez complexes, soit celles d'une femme noire qui pose des questions sur... Mais là, je vais le lire parce que je me trouve pas assez comment dire, légitime pour leur donner la voix qu'elles ont. Donc, je continue de lire le synopsis. Katiane, une femme noire hétérosexuelle, donc personnage 1, et son colocataire Marc, un homme blanc homosexuel, donc personnage 2. Et donc, à travers cette histoire-là, on sent vraiment que Katiane, elle prend conscience que dans le fond, c'est de la diversité des identités. Puis là, je perds mes mots. Charlotte, peut-être que tu pourrais me poser une question. Aide-moi.
Ben oui. Ben en fait, je vois que c'est un conflit de valeurs un peu qui est mis à travers des relations avec des gens qui sont d'une part et de l'autre et d'autre ostratisés, mettons, par la société ou pointer du doigt un peu.
C'est exactement ça. Puis c'est vraiment un conflit de valeurs. Puis c'est une question de privilège. Puis c'est une question de privilège entre une femme noire hétérosexuelle et un homme blanc gay. Et puis c'est vraiment là j'ai comme oublié le mot qui est comme que je connais par cœur, mais c'est vendredi. Et,
c'est vendredi café sur les ondes de sécurité.
C'est vendredi café. Mais donc je vous conseille d'aller la voir. Il reste En fait, je pense qu'il reste une représentation demain soir à l'espace public. Sinon, allez suivre, allez suivre Black Theatre Workshop pour voir l'excellent travail qu'elles font. Et on va aller en musique avec une pièce du rappeur Webster. Je suis pas toujours vraiment fan de son travail, mais avec un collectif d'artistes composé de 4C, Key 7A, Don Anam, Amel Zaza, Mohamed Masmoudi et DJ Nerve, ils ont créé une pièce qui s'intitule Palestina. Et donc, on avait envie de la présenter ce soir pour se rappeler que le conflit n'est pas terminé, que ça continue de se passer, en fait, et c'est absolument terrible. C'est un génocide qui se passe. Et donc, on l'a fait jouer en solidarité avec toutes les personnes concernées. Bonne écoute, tout le monde.
La vérité, il faut l'appeler apartheid. Appeler au boycott que le monde fournisse apartheid. La vérité, on doit nommer les crimes de guerre. Israël est un voyou qui demeure sourd au cri du cœur. Ils ont rendu illégal de récolter l'eau de pluie. Ils bombardent les réfugiés, voient tous ces hôpitaux détruits. Le désarroi, je vois mon nom sur les missiles. Le Canada et son soutien, complice pas si implicite.
It feels weird to be living when people are dying and all you can do seems like it's not enough. It feels weird to hide from living, that we are living, moving, dancing, loving, still upright from the gravity of the world, of these times. But we live, we are alive, we keep living even as bombs drop, buildings fall, hospitals, universities, schools, mosques, churches. The worst is it's a normalized state. We live, we rebuild, we live. 25,000 tons, that's two nuclear bombs worth sinking into the earth, burying what could have been. In just 100 days, not the last 75 years even, we live, we rebuild, we live. I remember my parents talking about how people would live on water until the dust settled and bird songs could be heard again. People would return to shore, to pieces of their homes, unrecognizable, stick by stick, frond by frond, rebuild, knowing the cycle may never end. They said it so matter of fact, like, what else are you supposed to do but to keep living? So life lives, another day and another one. Generations of wars, occupations, colonization, domination, hidden and forgotten, we've lived. Inshallah, God willing, we can live another day to see Palestine free.
Mot arabe qui n'a pas son équivalent dans la langue du colon. Un mélange de résilience, résistance inébranlable. Une résilience qui ne cède rien, qui ne capitule pas, qui prend son souffle pour se relever et toujours lutter. Soumoud, c'est la majestuosité des oliviers cinq fois millénaires qui narguent le jabalout du colon. C'est la pastèque de Beit Hanoun qui devient drapeau, c'est le rouge, vert, blanc, noir qui fait trembler le mur de l'apartheid et l'état voyou. C'est Handala qui se momifie dans ses 10 ans tout le temps qu'il faudra pour que les enfants et petits-enfants de Nakba tournent la clé dans la serrure. Soumoud s'est appelé Palestine et nommé chacune de tes villes et villages. Safad, Akka, Bissen, Bir Saba, Gaza, Haïfa, Al-Khalil, Yafa, Al-Ramla, Al-Quds, Janin, Al-Nasira, Tabriye, Toul, Karam. C'est préférer mourir en shahid que vivre en mostakine. C'est convertir chaque maison démolie en munitions à triboulette. Soumoud, c'est la koufiyé qui devient symbole de dignité, qui voyage d'un tout petit territoire vers le monde entier. C'est l'histoire d'un grand peuple dans un petit pays, dans la lutte pour la vie, annihile les frontières et insuffle au monde le sens de la dignité. À Soumoud, ou à Palestine, Aashat Palestine, hurra, min al-nahr ila al-bahr.
De retour sur les ondes, sur votre émission d'art et de culture Café. Il est 18h52, c'est Alex qui vous parle sur les ondes de CKUT. Un peu ému de cette magnifique pièce qu'on vient d'entendre donc, de Webster, comme que j'ai présenté. Juste avant la pièce, c'était absolument magnifique en solidarité avec les peuples, avec le peuple palestinien. Donc, c'est pas mal ce qui termine notre émission. Charlotte, est-ce que tu as un mot de la fin?
Non, je suis contente d'être là avec toi. Je trouve que c'est le fun de faire des revues culturelles. Puis ce vendredi-ci est peut-être un peu humide, mais on a quand même bien du plaisir.
Oui, tellement. Puis donc, on va terminer l'émission avec deux pièces de deux artistes basés à Montréal. Donc, une première pièce avec la pièce « Playing with Fire » de l'artiste Blue Material. Donc, on entend ici en background. Première pièce de upcoming album que Blue Material a fait avec son ami Scott. Et après, on va aller entendre la pièce de Fred Diamond, Midi sur Mars. Bon week-end tout le monde et bonne écoute! Thank you.
porque me dijiste tantas mentiras. Después de verte